Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à Rocamadour pour la deuxième journée du festival 2022. Après la soirée d'ouverture hier à la basilique Saint-Sauveur, le Ténébré Choir donne un second concert à l'abbaye Sainte-Marie de Souillac, cette fois-ci toujours à 21h. Et puis demain, retour à Rocamadour pour ce qui est une des traditions du festival, le concert de piano à la basilique. S'y sont déjà produits, je le rappelle, des artistes aussi prestigieux qu'Anne Kefelec, le très regretté Nicolas Angelich ou Alexandre Tarot l'année dernière. Pour cette 17e édition, c'est un des grands du clavier français et international qui a été invité, Bertrand Chamaillou. Le pianiste toulousain a très gentiment accepté de s'entretenir avec moi avant son concert. Bonjour Bertrand Chamaillou, merci infiniment d'être au micro de Radio Présence.
Bonjour à vous.
Alors, il y a une question un peu rituelle lorsque je m'entretiens avec un musicien qui découvre le festival de Rocamadour. Première au festival donc pour vous, mais est-ce qu'il s'agit aussi d'une découverte du lieu, du site de Rocamadour? Est-ce que vous connaissez déjà cet endroit magique, il faut bien le dire?
Je connais le lieu, oui, parce que ben moi-même, je suis toulousain, pas très très loin, et puis curieux aussi. Donc évidemment, c'est un lieu où je suis venu peut-être une dizaine de fois depuis que je suis enfant. J'y suis revenu régulièrement. Je connais la magie de ce lieu. Par contre, effectivement, c'est une première pour un concert. Et ça, je m'en réjouis d'autant plus que je connais le lieu.
Et puis, Rocamadour est très lié à Francis Poulenc, comme vous le savez. Est-ce que c'est un compositeur qui a de l'importance pour vous?
Oui, quand j'étais très jeune, j'ai été baigné par mes professeurs. Ma première professeure avait connu Poulenc. Quelques personnes que j'ai côtoyées dans mon enfance qui avaient bien connu Poulenc et certains musiciens du groupe des Six. Donc effectivement, je ne suis pas héritier de ça, mais enfin, indirectement. Et puis c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Je n'ai pas beaucoup joué sa musique encore. Enfin, j'ai joué toute sa musique de chambre. J'ai accompagné pas mal de mélodies. Et puis j'ai pas mal joué son concerto pour deux pianos aussi, que j'aime beaucoup. Il y a une œuvre que j'aime beaucoup aussi, qui est le concert champêtre, qui est pour clavecin et orchestre, mais qu'on peut jouer aussi au piano. Ça, je projette peut-être de le jouer, parce que je trouve que ça marche très très bien au piano aussi. C'est un concert que j'aime énormément. Voilà, j'y viendrai tôt ou tard de nouveau, je pense.
Alors, on va évidemment parler de musique française tout à l'heure avec vous et on prolongera un peu cette discussion liée à Francis Poulenc qui est au compositeur de son époque, même si on ne va pas parler de ceux du groupe des Six. Et avant de parler de votre concert du 17 août à la Basilique et du programme que vous allez y jouer, je voudrais revenir un peu sur votre déjà longue et riche carrière qui vous a amené à vous produire dans les plus grandes salles du monde depuis une vingtaine d'années. Je l'ai dit, vous êtes né à Toulouse, c'est là que tout a commencé pour vous. Vous avez été élève du conservatoire et vous avez donné vos premiers concerts dans la Ville Rose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont particulièrement compté pour vous lors de ces années de formation et de début de carrière?
Oui, vous savez, quand on fait le résumé, souvent on se rend compte qu'il y a eu des gens, c'est parfois le fruit du hasard, c'est parfois des rencontres, ça, mais il y a quelques personnes qui ont été déterminantes dans un parcours. Moi, à Toulouse, ma professeure au conservatoire, qui s'appelle Claudine Villotte, que j'ai pas vue depuis un moment, et qui était une personne très importante pour moi, m'a formé jusqu'à l'adolescence, enfin quand je suis rentré après au conservatoire de Paris à 16 ans, mais qui était surtout une personne, au-delà du fait qu'elle était une très bonne professeure de piano, qui était une personne qui était porteuse d'histoire, elle-même élève d'un grand pianiste qui s'appelait Lazare Lévy, conservatoire de Paris, et donc elle côtoyait beaucoup, beaucoup de monde, enfin, dans le milieu musical, et elle était passionnée à un degré incroyable, avec quelque chose de très communicatif. Et donc, elle nous a, surtout au-delà de l'aspect pianistique, moi et d'autres d'ailleurs, dans la classe, il y avait quelque chose de très égalitaire d'ailleurs. Je pense qu'on était tous traités un peu de la même manière, en essayant de nous stimuler vraiment. C'était surtout, effectivement, une passion débordante pour la musique. Donc, ça allait bien au-delà du piano et d'apprendre bien ses morceaux et de travailler en vue des examens. Et puis, alors, une de ses grandes passions, c'était la musique, autant un petit peu des ballets russes en France, comme ça, de tout ce qui gravitait autour de Debussy et de Ravel, avec notamment Stravinsky, Prokofiev. Puis alors, elle m'a communiqué aussi une passion pour la musique de chambre, qui fait que j'ai très très tôt fait mes armes, je dirais, en tant que chambriste aussi. Et puis cette boulimie aussi un petit peu, cette envie de découvrir quelque chose qui est très au-delà de l'instrument. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs de piano qui vous enseignent uniquement le piano, vos morceaux, puis la tradition, on apprend à un certain niveau, on joue les études de Chopin. Bon, tout ça, on le faisait, mais il y avait aussi tout ce qu'il y avait à côté. Et ça, ça a été déterminant pour moi. Donc, elle a été vraiment quelqu'un de très particulier pour moi. Et puis ensuite, effectivement, des gens qui m'ont fait confiance très jeune. Catherine et Thierry Dargoubet à Toulouse. Thierry était pendant très longtemps, jusqu'à l'année dernière, s'est occupé de l'orchestre du Capitole de Toulouse. Catherine, les pianos jacobins, avec son collègue Paul Arnaud Péjouan. Et alors moi, ça a été des gens qui m'ont fait confiance très tôt. J'ai donné mon premier concert à l'âge de 15 ans au piano jacobin. Et puis, un de mes premiers concerts avec orchestre, je devais avoir 17 ou 18 ans, avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui était dirigé à l'époque par Michel Plasson. Donc, c'est des gens qui ont été d'une très grande fidélité avec moi jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que tout est parti de là. Ça a été le point de départ, vraiment.
Après, donc, il va y avoir le Conservatoire supérieur national de musique de Paris et vous allez entrer dans la classe de Jean-François Esser. Alors ça, quelqu'un qui a été vraiment très important et qui demeure très important pour vous.
Alors Jean-François Esser, c'est un pianiste que j'ai découvert par hasard. Quand j'étais petit, mes parents m'avaient amené à un festival qui était tout jeune à l'époque, dans les années 80, qui était le festival de piano de la Roque d'Anthéron en Provence, qui aujourd'hui est un rendez-vous majeur des pianistes, évidemment. Mais à l'époque, c'était déjà un très beau festival, on en parlait, mais enfin, c'était pas du tout encore, il y avait pas cette immense conque acoustique, etc. Et par hasard, c'est un peu un signe du destin, mais j'avais peut-être 6-7 ans, m'avait amené écouter un pianiste encore jeune à cette époque-là, qui était Jean-François Esser. Je m'avais beaucoup impressionné, qui jouait des sonates de Beethoven. Et quelques années plus tard, il est venu. Là aussi, cette rencontre s'est produite à Toulouse. Il est venu en tant que membre du jury d'un examen de fin d'année. Et apparemment, il a été marqué par mon jeu, d'avoir 13 ans. Et donc, c'est lui qui a fait téléphoner par direction du conservatoire, chez moi, mes parents, pour me rencontrer. Et en proposant de parler avec lui, de me prendre en charge à partir de là. Et donc, voilà, moi, j'étais encore en train de finir le conservatoire à Toulouse. On trouvait avec mes parents, enfin, moi aussi, mais surtout mes parents, que la lucidité de trouver que c'était peut-être un peu tôt de partir à 13 ans ou 14 ans à Paris. On a attendu l'âge de 16 ans, déjà quand même très tôt. Mais on allait le voir tous les mois. J'allais avec ma mère à Paris, lui rendre visite. Et puis, voilà, il s'est occupé de moi. Après, quand je me suis présenté au conservatoire à Paris, j'étais reçu dans sa classe. Et voilà, et il s'occupait déjà d'une académie à Saint-Jean-de-Luz, l'académie Maurice Ravel à l'époque, qui est aujourd'hui le projet que j'ai repris avec lui un petit peu sous forme de festival et académie. Donc j'ai passé tous mes étés aussi à Saint-Jean-de-Luz à travailler avec lui, et l'année à Paris à partir de l'âge de 16 ans, j'ai intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique. À partir de là, oui, il a été un personnage aussi déterminant. Tout d'abord de par son enseignement, qui m'a fait quand même passer. Moi, j'étais plutôt à Toulouse un dilettante, un passionné de musique doué. Et un professeur qui avait compris que j'étais un petit peu difficile à dompter, m'a aidé à m'épanouir. Elle a été plutôt comme un tuteur, mais elle a compris qu'à un moment donné, je n'envisageais pas forcément ma fin de carrière. J'étais pas dans une logique compétitive. J'étais pas tellement. Mais bon, elle a vu que ça marchait quand même, que je m'épanouissais en faisant ça comme un hobby, vraiment, mais de grande passion. Donc elle a épousé un petit peu ça, très intelligemment. Et puis c'est vrai que je suis arrivé un petit peu plus à maturité, si je puis dire, quand j'ai intégré le conservatoire à Paris, que tout d'un coup je me suis frotté quand même à une forme de concurrence. Enfin, si j'ai jamais trop été dans cette optique, j'ai toujours cherché à creuser mon propre sillon. Mais enfin, j'ai quand même compris qu'à un moment donné, le piano, il allait falloir travailler un peu plus sérieusement, etc. Et Jean-François Esser était, je pense, la bonne personne pour m'aider à me discipliner. C'est quelqu'un qui est une autorité naturelle, qui n'est pas du tout agressive, loin de là, très gentil, très doux, mais enfin avec une sorte d'aplomb et d'autorité naturelle. Et très justement, je pense que pour un professeur, à un moment donné, on doit passer par là, on ne doit pas être tout le temps dans l'émerveillement d'un élève doué. Bon, mais justement, quand on est élève doué, il faut passer par une phase un peu plus difficile, où on doit avoir une exigence très 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 haute. Et donc c'était la personne idoine à ce moment-là pour moi. Et il m'a ouvert à beaucoup de choses aussi, avec son goût pour la musique contemporaine et pour tout un tas de choses que moi j'ai aimé très tôt, mais je veux dire, c'était une bonne rencontre aussi en termes de personnalité. Et puis voilà, c'était une personne, donc, de par son enseignement important, et puis pour me mettre un pied à l'étrier. Ça a été une des premières personnes qui m'a recommandé à droite à gauche en me disant, voilà, j'ai un élève brillant qu'il faut engager. Et donc, il m'a permis d'avoir, je dirais, mes premiers concerts parisiens. Et ça a été la première personne qui a vraiment aidé à ce que mon nom soit diffusé largement et que je commence vraiment, dès l'âge de 17, 18, 19 ans, à jouer de plus en plus à droite à gauche, quoi.
Voilà, et votre carrière a été lancée, magnifique carrière qui vous vaut depuis, oui, je disais une vingtaine d'années maintenant, au moins 15 ans d'être invité dans les plus grands festivals. Vous avez été plusieurs fois récompensé aux Victoires de la musique classique. Vous venez jouer à Toulouse tous les ans ou presque aux grands interprètes avec l'Orchestre du Capitole à la Lograin. Vous avez fait des tournées aussi avec l'Orchestre National du Capitole. Et puis, depuis le premier en 2006, vous avez réalisé de nombreux enregistrements, une dizaine en tout, parmi eux l'intégrale des années de pèlerinage de Franz Liszt et tout récemment 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, deux compositeurs et deux œuvres qui vous sont chères et qui sont au programme de votre concert à la Basilique Saint-Sauveur. Nous allons y revenir. Il y a un autre compositeur très important pour vous, vous en avez déjà parlé, c'est Maurice Ravel, dont vous avez enregistré l'intégrale pour piano seul, et c'était à Toulouse d'ailleurs en 2016, à Saint-Pierre-des-Cuisines, sous le label Erato. Nous allons évoquer Maurice Ravel et la passion que vous nourrissez pour son œuvre. Avant cela, on vous écoute dans un extrait de ce CD Ravel. Vous interprétez ici Jeu d'eau. Jeu d'eau de Maurice Ravel, un extrait de l'intégrale pour piano seul que vous avez enregistré en 2016, Bertrand Chamaillou. Je n'ai pas choisi cette pièce au hasard parce que je crois que c'est la première partition d'une œuvre de Ravel que vous ayez eu sous les yeux. Pourquoi cette passion pour ce compositeur? Je crois qu'elle est très ancienne et qu'elle remonte même à votre prime jeunesse, pour ne pas dire à l'enfance.
Oui, ça remonte complètement à l'enfance et là c'est typiquement l'évocation tout à l'heure de ma première professeure au conservatoire de Toulouse, Claudine Villotte, qui nous a fait aimer toutes ces musiques de Debussy, de Ravel, musique espagnole, Fayal, Bénis, Granados, musique russe de Stravinsky, de Prokofiev, toute cette époque. Mais il se trouve que j'avais un copain à cette époque-là, enfin, qui était un ami de la famille, un garçon qui est professeur au conservatoire de Metz maintenant, qui s'appelle Christophe Dorignac, qui est plus âgé que moi, très très brillant. Il avait intégré le conservatoire de Paris lui aussi, quelques années avant moi. C'était un peu mon modèle quand j'étais enfant. Et j'allais chez lui, il jouait du piano, il était plus avancé, donc il jouait des choses difficiles, tout ça, ça m'impressionnait. Et il avait des partitions, déjà d'un certain niveau, donc tout ça me fascinait pas mal. J'allais traîner un peu dans cette bibliothèque de partitions et j'ai découvert là des choses. Donc, quand on est à ces âges-là, qu'on se découvre une passion et qu'on a quelques petites choses, des partitions, des disques sous la main, ça devient des véritables trésors. Parce que là, j'avais pas beaucoup de partitions à disposition, donc... Dès que j'en voyais une, c'était tout de suite quelque chose de magique. Et alors, lui, il avait quelques partitions, et parmi ces partitions, il y a eu deux choses déterminantes. C'était les Jeux de Ravel, et plus tard, les 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Mais pour parler de Ravel, c'était d'abord les Jeux d'eau. Là, je suis tombé sur cette partition, Et bon, la partition est noire de notes, hein. Il faut voir,
oui.
Même quand on ne lit pas la musique, il y a plein de notes très rapides, comme ça, qu'on appelle des triples croches, des quadruples croches, etc. Donc effectivement, cette volonté de décrire l'élément liquide, comme ça, l'eau, les cascades, les fontaines, les ruisseaux, elle se voit graphiquement. Donc, moi, j'avais pas le niveau pour jouer ça, mais quand j'étais tout petit, j'ai vu cette partition d'abord. Et donc ce graphisme, il m'a interpellé, je me suis dit, quelle chose extraordinaire. Parce que moi, je jouais mes petites sonates classiques de Clementi, de choses qui étaient très belles, hein, d'ailleurs, de Mozart, etc. Mais j'avais jamais vu cette chose comme ça, qui était une sorte de peinture impressionniste, comme ça. Et donc, je me suis dit, mais comment ça sonne, cette musique? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Et il se trouve que par un hasard tout à fait extraordinaire, je suis allé écouter avec ma professeur, du coup, et mes parents, un pianiste qui a été déterminant dans ma vie, qui était Vlado Permuter.
Et oui.
C'est un pianiste franco-polonais qui était déjà très âgé quand j'étais petit, mais qui avait eu la chance, je peux dire, c'est un pianiste formidable surtout, de travailler toute la musique de Ravel avec Ravel lui-même.
Oui.
Et il a donné un programme, surtout Chopin, Fauré, enfin, vous savez, il n'y a pas tellement de... Mais en bis, il a joué les jeux d'eau. Je me souviens très bien, parce que du coup, c'était la surprise du chef, si je puis dire, c'est que moi, je rêvais d'entendre ces jeux d'eau et que ben, j'ai été servi par Vlado Permuter, donc... élève de Ravel en personne, qui a joué à ce concert, en rappel, sans que je n'y attende, ces jeux d'eau. Et donc, cette combinaison d'événements, là, c'est vrai que pour un petit garçon, je l'ai 7-8 ans, ou je sais pas, quelque chose comme ça, a produit un effet où, tout d'un coup, ben, Ravel est devenu un personnage pour moi, un compositeur, tout de suite, devenu au sommet de mes centres d'intérêt. Et puis, donc, j'ai voulu connaître absolument tout de la musique de Ravel à ce moment-là. J'ai découvert d'autres choses, Debussy, Bartok, enfin plein d'autres choses. Mais c'est vrai que Ravel a été un des premiers grands chocs esthétiques et surtout une de mes premières marottes, comme ça, quand j'étais petit, je voulais absolument tout connaître de Ravel. Donc j'ai connu, avant 10 ans, si je peux dire, pratiquement, j'ai écouté et je me suis plongé, mais pas de façon passionnée, dans la majeure partie de l'œuvre de Ravel. Pas que piano, hein, je veux dire, les mélodies, les œuvres d'orchestre, le quatuor, enfin, à peu près tout ce que je pouvais trouver. J'ai écouté plein d'enregistrements, j'ai lu des livres, j'ai des biographies de Ravel que j'ai lues parmi mes premiers.
Il y a celle
livres,
de Yankelevitch, notamment. Oui.
Celle de Yankelevitch, voilà, et la plus importante, je pense, qui est celle de Marcel Marmin, qui est absolument prodigieuse, une vieille édition Fayard. Donc voilà, j'ai dévoré tout ça, c'était une partie de mon enfance. Et Vlado Permuter, ce pianiste, il se trouve qu'en plus, l'ironie du
clin d'œil du destin.
Le film du destin était le professeur de Jean-François
Esser.
De mon professeur. Voilà.
Vous vous inscrivez dans une espèce de généalogie Ravel, de Ravel à Perlimutter, de Perlimutter à Esser, de Esser à Chamaillou. Est-ce que le personnage Ravel, dont un pan de la vie reste un peu mystérieux, vous touche et vous intrigue aussi? Peut-être parce que c'est dans sa musique qu'il a mis le plus de lui-même, d'ailleurs.
Oui, alors quand on lit beaucoup de choses, on arrive à comprendre. Ça, c'est un personnage qui semblait mystérieux pour ses amis aussi, hein. Un personnage secret, paradoxal. Mais moi, j'ai une certaine empathie, je ne sais pas comment il était, parce qu'effectivement, on raconte qu'il pouvait être charmant comme extrêmement désagréable, froid, parfois austère et peu accessible, mais pas du tout d'ailleurs par côté snob, hein, au contraire, mais plutôt un peu misanthrope comme ça parfois. Très particulier, très direct, enfin, très droit aussi, bon, un homme de principe, très intègre. Moi, c'est ça qui me touche le plus, c'est son côté intègre et sa pensée libre. Parce que c'est étonnant, c'est pas le compositeur le plus avant-gardiste, c'était un compositeur vraiment moderniste, mais il n'était pas aussi avant-gardiste que Debussy, par exemple, qui était son aîné, qui était plus un homme de la révolution musicale, ce qui n'était pas vraiment le cas de Ravel, même si c'était quand même un compositeur plutôt dans la tradition moderniste, mais qui était plus quand même dans une forme de séduction, plus attaché au passé, aux formes du passé d'une certaine manière. En tout cas, Ravel, comme personnage, vraiment, un personnage qui est très isolé à cette époque-là dans sa manière de penser, qui est là pour le coup une sorte d'avant-gardiste, progressiste. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai quand on voit ses choix aussi, par exemple l'épisode extraordinaire de la guerre,
oui.
La Première Guerre mondiale, où il veut absolument être engagé dans l'armée et aller au front, ce qui est quand même un comble parce qu'on pourrait imaginer... Dans ces cas-là, on a plutôt envie de se camoufler.
Mais de se planquer.
Alors, l'extraordinaire courage de vouloir être enlevé, il se voit refuser ça par sa petite taille et il insiste tellement, il fait jouer des relations pour pouvoir y aller. Et donc, il arrive à devenir ambulancier pour en venir en aide aux soldats blessés sur le front. de se dire que cet homme, c'est un patriote comme ça, extraordinaire, et en même temps qui est à rebours de tous les nationalismes. Parce qu'à cette époque-là, beaucoup de gens étaient plutôt planqués, mais par contre très nationalistes, du genre à dire on ne joue pas de musique allemande, etc. Et lui avait fait un courrier à la Société Nationale de Musique, qui était la promotion à l'époque Paris de la musique contemporaine, qui avait adopté une politique pour ne plus jouer la musique allemande pendant la guerre. Il avait fait un courrier qui lui avait valu d'être expulsé en tant que compositeur de cette société, en disant qu'il fallait jouer la musique ennemie, et entre guillemets ennemie, et ne pas confondre la musique et la production artistique avec l'idéologie politique du moment.
Ce qui nous renvoie à des débats très actuels.
Ce qui nous renvoie à des débats très actuels, et personnellement je souscris totalement, j'ai des histoires aujourd'hui où on dit qu'il ne faudrait pas jouer la musique russe, etc. Oui, oui. Dans beaucoup de cas, et particulièrement les compositeurs du passé, n'ont vraiment pas de rapport avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc à l'époque, c'était typiquement, on ne devait plus jouer Beethoven, donc tout ça était un peu aberrant, je pense. En tout cas, il a été le seul à tenir une position comme ça, au prix de perdre sa place, littéralement, de jouer une partie de sa carrière. Finalement, l'avenir lui a donné toute la place qu'il mérite, mais à cette époque-là, c'était un sacrifice, puisqu'il a été déprogrammé de tout un tas de concerts. Donc c'était un homme quand même d'une droiture extraordinaire, et ça c'est un exemple parmi plein d'autres. C'était un homme comme ça, très très entier, et je trouve fascinant le caractère de ce personnage.
Voici un second extrait de votre intégrale pour piano seul de Ravel. Nous allons rester dans l'élément liquide, l'eau étant souvent présente dans les compositions ravéliennes, notamment la mer. Je rappelle au passage que la Vierge Noire de Rocamadour est la protectrice, la patronne des marins. Nous écoutons votre version d'une barque sur l'océan. Merveilleuse pièce extraite des miroirs, une barque sur l'océan de Maurice Ravel, interprétée par Bertrand Chamaillou, l'œuvre avec laquelle nous concluons la première partie de cet entretien. Je rappelle que le pianiste toulousain est en concert demain 17 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, où il va donner un programme Liszt-Messiaen. Ce mardi soir, second concert du Ténébré Choir, mais à l'abbaye Sainte-Marie de Souillac, également à 21h. L'ensemble vocal britannique y interprète le Miserere d'Allegri et passe aux Miracles de Joby Talbot. Des places sont encore disponibles. Vous pouvez les réserver et les acheter en ligne sur le site du festival www.rockamadourfestival.com. Demain à 13h35, second volet de l'entretien avec Bertrand Chamaillou. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien. Je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.